Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les œuvres de miséricorde. Aujourd'hui, avec une œuvre, encore une œuvre de miséricorde spirituelle, c'est-à-dire pardonner les offenses. Je vais commencer avec la lecture de l'Évangile pour vous montrer la profondeur, la portée même de cette œuvre de miséricorde pour nous mettre un peu dans la dimension qu'est celle du chrétien, qu'est celle du Christ. C'est l'évangile de Marc au chapitre 2. Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelques temps, on apprit qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait, et ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parlait-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, vous vous souvenez sûrement, si vous avez écouté les autres émissions sur les œuvres de miséricorde, que les œuvres de miséricorde, ce sont des œuvres que Dieu le premier a accomplies et qu'ensuite il nous demande d'accomplir parce que nous ressemblons à lui, de par notre nature, plus encore parce que nous sommes assimilés au Christ, nous sommes à l'image du Christ, grâce à notre baptême, à notre participation à l'Eucharistie, nous sommes petit à petit transformés à l'image de son Fils. Et donc ça veut dire que parce que nous ressemblons à Dieu, nous pouvons accomplir des œuvres de miséricorde, et parce que nous accomplissons des œuvres de miséricorde, nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Tout cela est vrai pour toute œuvre de miséricorde, mais plus encore pour celle-ci. Nous venons d'écouter un évangile très fort qui nous dit « Dieu seul peut remettre les péchés. Dieu seul peut pardonner. » C'est-à-dire que quand tu pardonnes, comme Jésus le demande, et nous le verrons aujourd'hui, ça va être une mission un peu plus particulière, on va proclamer l'évangile à 2 ou 3 reprises pour essayer de rentrer vraiment en profondeur, mais quand tu pardonnes comme Jésus a demandé, tu accomplis un acte divin. Personne ne ressemble plus à Dieu que celui qui pardonne à son frère, qui pardonne les offenses à son frère. Pour cela, je vous invite maintenant à écouter une parabole de l'Évangile, cette fois-ci de l'Évangile selon saint Matthieu. Et au chapitre 18, c'est le chapitre sur l'Église. Nous avons déjà eu affaire à ce chapitre quand nous avons parlé de la correction fraternelle, d'avertir, de réprimander les pécheurs. Et maintenant, je continue la lecture du même chapitre, là où on s'est arrêté, pour parler du pardon des offenses. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Pierre, s'avançant, lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » À ce propos, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant, « Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ses serviteurs le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rends tout ce que tu dois ». Son compagnon alors se jeta à ses pieds et le suppliait en disant « Consens-moi un délai et je te rendrai ». Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il lui remboursait son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allaient raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ? » Et dans ton courroux et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, cette parabole est magnifique pour parler du pardon. On va essayer de la décortiquer brièvement. Tout d'abord, ça parle donc d'une dette, d'un homme qui avait une dette qui n'était pas remboursable. Quand il parle de toute cette somme qu'il devait au maître, 10 000 talents, on pourrait, ça dépend un peu de la valeur de l'or, mais à peu près on pourrait dire qu'il devait 60 millions d'euros. C'est vraiment une dette qui n'était pas remboursable, en sachant que le salaire d'une journée pour un serviteur de l'époque, c'était en petit denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Là, il faudrait 60 millions. Donc, c'était déjà une dette qui n'était pas remboursable. Et déjà, on ne sait pas comment il a fait pour avoir cette dette. Mais quand il supplie au maître, vous avez entendu, le maître lui pardonne tout et tout de suite. Il ne dit pas, parce que le serviteur est tellement aveuglé, il n'a tellement pas conscience de sa dette envers le maître, qu'il dit, consens-moi un délai et je te la rembourserai. Mes frères, c'est impossible. Même s'il travaillait tous les jours, toute sa vie, rien que pour payer la dette, sans compter la nourriture et le reste, rien que pour ça, il n'aurait pas pu rembourser. Donc, donne-moi un délai, consens-moi un délai, c'était déjà un aveuglement de sa part, il n'avait pas pris conscience de la dimension de sa dette. Mais quand il supplie, le maître, pris de compassion, lui pardonne tout de suite. Il ne dit pas, alors rembourse-moi 50%, ou alors ce que tu peux, donne-moi ce que tu peux, on pourrait dire. Après tout, c'était lui le maître, il aurait pu dire, alors tu as combien? Tu as 1% de la dette, 0,1%? Ou alors, est-ce que tu veux me rembourser 1% par an, le temps que tu pourras? Non, pas du tout. Il a pardonné tout et immédiatement, tout de suite. Alors, quand il sort, il voit l'autre serviteur qui lui devait 100 deniers. Le denier, c'était la fameuse pièce d'argent, donc c'est-à-dire le salaire de 100 journées, de 3 mois et demi. Et qui demande aussi, consens-moi un délai, je te rembourserai. Et c'était possible, effectivement. Mais il n'a pas eu cette compassion. Il l'a jeté dans la prison, où il ne pourrait même pas travailler. Donc peut-être sa femme, son enfant, ses enfants, etc. Mais jusqu'à ce qu'il rembourse. Et évidemment, le maître ne peut pas supporter cette injustice-là. Ne peut pas supporter que ce serviteur à qui il a tout pardonné, des choses très graves, une dette énorme, pas remboursable, que ce serviteur-là ne pardonne pas son confrère, à son collègue qui lui devait une bagatelle, rien du tout. Trois fois rien, comme on dit. Alors, mes frères, c'est une parabole qui nous parle évidemment du pardon des péchés. Parce que souvent, déjà, d'une, nous oublions combien le Seigneur nous a pardonné à nous. Et combien le Seigneur nous a aimés gratuitement et en Jésus-Christ, dans le sang de son Fils, nous a pardonné tout et tout de suite. Si on a besoin, déjà par le baptême, qui nous configure au Christ crucifié et ressuscité, et donc qui applique en nous le pardon des péchés, mais aussi par ce sacrement merveilleux qui est le sacrement de la confession, de la réconciliation. Et si vous n'avez pas encore expérimenté cela, je vous invite à le faire, parce que c'est une expérience très profonde, non pas des sentiments, pas besoin qu'on ressente quelque chose, mais très profonde, de pouvoir avouer ses péchés. C'est le seul tribunal, comme on dit parfois, où celui qui avoue ses torts, celui qui avoue ses péchés, au lieu d'être condamné, est absous, est innocenté, est pardonné. Alors, mes frères, le Seigneur qui nous a tout pardonné et continuera de nous pardonner, il ne nous demande qu'une chose, qu'on pardonne tout ce que les frères nous ont fait. Et c'est vrai que parfois, et on va y revenir, il y a des torts très graves, il y a des choses très lourdes à porter, il y a des injustices, des choses très sérieuses. Mais disons que 70%, 80%, si on veut continuer dans le monde des chiffres et des affaires, selon l'Évangile, disons qu'un bon pourcentage, en tout cas, des choses qu'on nous fait, c'est des trois fois rien, c'est des petites choses, c'est un regard de travers, c'est un mot blessant, c'est un, je sais pas moi, c'est parce qu'on nous a pas considérés, c'est parce qu'on nous a pas rendu l'honneur qu'on croyait avoir ou mériter, etc. Donc mes frères, le Seigneur nous donne aujourd'hui une parole sérieuse. Mais ce n'est pas pour autant que cette parole est un moralisme. Rien dans le christianisme n'est un moralisme. Donc vous avez compris la dynamique de la parabole. Ce n'est pas Dieu ou le maître, en l'occurrence, qui ordonne de pardonner aux autres alors qu'il n'a rien fait. C'est parce que celui avait expérimenté la miséricorde de Dieu, du maître, qu'il pourrait, s'il avait voulu, maintenant pardonner à son confrère. Donc pour nous, c'est la même chose. C'est d'abord faire l'expérience profonde de nos péchés, déjà, de voir que le Seigneur nous illumine, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on voit notre réalité. Parce que parfois, on peut se croire très, très bien, très gentil, et ne pas voir vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. En tout cas, au moins les intentions, les arrière-pensées, le jugement, même si on ne passe pas souvent, heureusement à l'action, mais parfois les arrière-pensées, les jugements, les murmures, la râlerie, etc. Bon, bref, l'orgueil qui glisse partout, l'arrogance même, ou peut-être la jalousie, etc. Alors, d'abord, le Seigneur doit faire en sorte qu'on voit ce qu'on a dans notre cœur, qu'on expérimente son pardon gratuit, son amour qui va au-delà de tout ça, qui est plus fort que la mort, qui a vaincu le péché, qui a détruit le malin, qui nous a fait maintenant, nous a donné la grâce de vivre une vie nouvelle. Une fois qu'on l'aura expérimenté, vous allez voir comment le pardon coule de source vraiment, quand on considère cela. Et en plus, c'est un mot qui dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire quand on parle de pardon, on risque d'oublier l'étymologie, c'est-à-dire c'est un don, c'est pardon, c'est un don que le Seigneur nous donne. La seule chose qu'il nous demande, bien sûr, c'est d'être ouvert à ce don, parce qu'un cadeau, on peut l'accueillir ou on peut le refuser. Si quelqu'un m'offre un cadeau, je peux le refuser ou je peux l'accepter, l'accueillir. La même chose, le Seigneur nous donne si on lui demande, si on est ouvert. Évidemment, il y a des choses pour lesquelles, je disais déjà tout à l'heure, il est très difficile de pardonner et c'est normal. On ne nous demande pas, là pour le coup, le maître nous a pardonné tout et tout de suite, mais nous, dans notre dimension, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas encore prêt à pardonner tout et tout de suite. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être dans un cheminement de foi avec le Seigneur, avec sa grâce. On peut commencer par prier pour celui qui nous a fait du mal. On peut commencer, si on n'arrive pas, à prier le Seigneur pour lui, à prier le Seigneur pour qu'il nous aide, pour qu'il ouvre notre cœur. L'important, c'est de ne pas s'enfermer en disant « telle personne, pour telle situation, je ne pardonnerai jamais. Même si Dieu descendait maintenant du ciel à me parler, je ne lui pardonnerai jamais. » Non. Mais si nous sommes dans une petite ouverture, si nous avouons, là aussi, humblement, « je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. » J'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à les voir, à entendre sa voix. Je n'arrive pas à pardonner ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait. Mais si Dieu me donne la grâce, si Dieu m'aide, je suis ouverte. Je suis ouvert. Alors, le Seigneur, petit à petit, modèle, il va modeler notre cœur pour que nous puissions lui ressembler, tout simplement, faire la même chose qu'il a fait avec nous. Bien, mes frères, le pardon, voilà, il n'y a rien de plus typiquement chrétien, il n'y a rien de plus divin que le pardon. On ne peut pas nier d'un point de vue humain que cet amour de l'ennemi, le pardon, est sûrement ce qu'il y a de plus exigeant dans les paroles de Jésus-Christ. Et considéré depuis les temps anciens, depuis les débuts de l'Église, comme le signe distinctif de la vie et de la conduite chrétienne. Depuis les débuts de l'Église, déjà le pape Clément de Rome, donc au 1er siècle, c'est encore le siècle de Jésus-Christ, 30 ans ou 40 ans après la mort et la résurrection du Christ, il dira « Celui qui n'aime pas celui qui nous hait n'est pas chrétien. » Celui qui n'aime pas celui qui nous hait n'est pas chrétien. Ou alors Tertullien, puisque l'amour des ennemis est une loi fondamentale et l'essence suprême de la vertu, dira Saint Jean Chrysostome. Je pourrais multiplier ici Saint Augustin aussi. Et je vais vous lire maintenant, je vais vous proclamer le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, qui va encore aller plus loin en nous disant « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et dans la suite, au chapitre 6, Jésus va nous enseigner à prier, vous vous souvenez. Et dans le Notre Père, il dira déjà, nous savons, nous les prions, j'imagine, tous les jours, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et à la fin, une fois qu'il a fini d'enseigner le Notre Père, il revient sur ce point, c'est le seul point sur lequel il revient, en disant, oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Donc Jésus revient, on disait dans l'Église primitive, que le Notre Père était vraiment la couronne de l'initiation chrétienne. Quand on aurait appris et intégré le Notre Père, on était arrivé à l'initiation chrétienne, au but, non, au final, c'est-à-dire on était devenu chrétien. Et que dans cette couronne, au-dessus de cette couronne, est venue perle précieuse. Et cette perle précieuse, c'est le pardon des offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme, il faut vraiment comprendre, tout comme, de la même manière, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut faire très attention, puisque nous demandons au Seigneur d'agir envers nous de la même façon dont nous agissons envers les autres. Donc ça, pour montrer vraiment le sérieux de la question. Et en plus, ici, nous sommes dans le cadre des émissions sur les œuvres de miséricorde. Et vous vous souvenez sûrement que je disais, les œuvres de miséricorde, on pourrait les appeler des œuvres d'amour. C'est la même chose. Alors pourquoi pas les appeler œuvres d'amour? Parce que ce n'est pas n'importe quel type d'amour. Ce n'est pas un amour d'amitié. Ce n'est pas un amour entre l'homme et une femme. C'est un amour total qui se donne, un amour qu'on appelle charité, l'amour divin qui se donne, qui est don de soi, qui pardonne. Alors pourquoi pas les appeler œuvres de charité? On pourrait, c'est la même chose, œuvre d'amour, œuvre de charité. Alors pourquoi a-t-on choisi œuvre de miséricorde? Parce que la miséricorde, c'est la charité, c'est ce type particulier d'amour qu'est la charité qui se penche vers la misère de l'autre. Donc celui qui a faim, je nourris, celui qui a soif, celui qui n'a pas d'habits, je lui donne des habits, etc. Mais là, nous avons affaire à une misère encore plus profonde, radicale, la pire des misères, qui est le péché. Parce que c'est le péché qui nous détruit, c'est le péché qui nous rend inhumains. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, même si, évidemment, c'est une souffrance terrifiante. Et on prie le Seigneur pour que ça finisse le plus vite possible. C'est pas ça, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que le péché est la misère la plus profonde qui puisse exister dans l'homme. Ça le détruit, ça le tue à l'intérieur, ça le corrode à l'intérieur. Alors, le pardon, c'est ton amour, ta charité qui se penche vers la misère du péché de l'autre et qui le rejoint d'eux-mêmes. Nous revenons toujours au même argument, que Dieu s'est penché vers ta misère et t'a pardonné et a donné son Fils et continue toujours de te pardonner. Tout dans l'Église en fonction du pardon des péchés. Jésus-Christ ressuscité, la première chose qu'il fait après avoir dit « paix à vous », c'est souffler l'Esprit-Saint pour dire aux disciples « ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés ». Tout est en fonction. Le prêtre à la messe consacre le sang du Christ en disant « La coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » La confession, n'en parlons pas. Le baptême, c'est en fonction du pardon des péchés. Tout dans l'Église va dans ce sens-là. Tout simplement parce que la beauté de la nature humaine, la beauté des relations humaines que Dieu lui-même a créées, qu'il a voulu, a été abîmée, a été blessée par le péché. Et c'est le pardon qui peut restaurer tout ça. Le pardon qui est une œuvre de l'Esprit-Saint, qui est un don qui nous vient du ciel, si seulement nous voulons, si seulement nous le demandons.
Mon Père, vous dites effectivement que le pardon, c'est un don que nous fait le Seigneur, nous en sommes incapables. Mais on peut aussi expérimenter, il y a aussi une offense qu'on fait envers nous-mêmes quelque part. Parce que lorsqu'on se sent incapable de pardonner, on en souffre beaucoup. Ça peut avoir des conséquences même pour notre vie, d'agressivité, de rancœur, de rancune, de fermeture. Non seulement on fait un dommage à l'autre parce qu'on empêche la charité et l'amour, mais même envers nous-mêmes, non ?
Bien sûr, c'est vrai que le fait de ne pas pardonner, ou en tout cas de ne pas vouloir pardonner, ça fait du mal peut-être à l'autre, même si parfois l'autre n'est pas conscient et il s'en moque un petit peu. Mais ça peut nous faire du mal. Et donc c'est vrai que parfois, quand on s'enferme, on n'est pas en paix, tout d'abord. On souffre. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Parfois on est malade, même physiquement. Tout simplement parce que quand on est, disons, aigri par le manque du pardon, quand on est agressif, comme vous disiez, c'est-à-dire que tout ça nous font du mal. Alors, autant pardonner, évidemment, je disais, avec la grâce de Dieu, autant demander au Seigneur de nous pardonner, parce que ceux qui ont déjà expérimenté la grâce de pardonner sincèrement, du fond du cœur, comme disait Jésus dans la parabole de Matthieu, chapitre 18, ceux qui ont eu la grâce de pardonner du fond du cœur savent de quoi je parle, de la libération que ça représente. C'est vraiment, c'est comme si on avait enlevé un grand poids de sur nos épaules, de notre dos, et on se sent libéré, on se sent en paix avec les autres, avec nous-mêmes, et la vie change. Et le sourire revient, et les grimaces, disons, le visage est plus détendu, est rayonnant, tout simplement parce qu'on a pardonné, à nouveau. Pas de moralisme. On demande au Seigneur cet encheminement de foi. Parfois, il faut, vous savez, je vais vous dire une chose, parfois, il faut même des années, même pas de semaines ou des mois. Parfois, il nous faut des années pour pardonner, mais on est dans la dynamique. Voilà. Le Seigneur nous aide à avancer, et si on n'arrive plus, et si on revient en arrière, on demande dans la prière, dans la confession, et le Seigneur nous aide et nous touche par sa grâce. On peut implorer la grâce aussi, on peut implorer au Seigneur la grâce de pardonner. Je voudrais finir cette émission avec deux anecdotes très rapides de ma mission en Chine. Moi, j'étais en mission en Chine pendant 2 ans, Et donc, on devait apprendre le chinois, etc., à l'université. Et j'ai eu l'expérience de parler avec 2 professeurs. Alors, ils savaient que j'étais chrétien, mais évidemment, la mission en Chine est interdite. Donc, on ne disait pas qu'on était en mission, qu'on était là pour la mission, mais on était des chrétiens en Chine. Voilà, point, des chrétiens en Chine. Et une fois, en étudiant, en faisant des examens, un peu en passant des examens avec une professeure, elle m'avait dit... Est-ce que vous avez une religion ? Et je lui ai dit, oui, je suis chrétien catholique. Il m'a dit, moi, j'admire beaucoup votre religion. Parce qu'ici, notre religion en Chine, selon ses moelles, bien sûr, je lui laisse sa responsabilité. Et elle disait, la religion en Chine est devenue pratiquement un marchandage, un commerce. On offre quelque chose au temple, de l'encens, des bougies, quand un enfant est malade, quand nous avons un problème, en attendant la guérison, la solution du problème. Mais dès que le problème est résolu, plus personne ne revient. Alors que vous, les chrétiens, vous parlez de pardon et vous parlez d'amour. Et ça, ici, ça n'existait pas. Donc c'est ses mots à elle, mais ça veut dire que ça l'a marqué. La caractéristique du christianisme, comme les païens du début de l'Église, c'était le pardon et l'amour jusqu'à l'amour des ennemis. Et pour conclure, donc, un autre professeur aussi, qui une fois nous avait demandé une dissertation pour pratiquer la langue chinoise, une dissertation sur le dicton « œil pour œil, dent pour dent », qui est d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Et donc là, bien sûr, en tant que chrétien, je ne pourrais pas me dérober. Donc je commence en disant « œil pour œil, dent pour dent », c'est déjà une limite à la violence humaine parce que le cœur de l'homme est tellement malade et violent que si on me fait un tort, j'aurais tendance naturellement à faire 2 fois plus pour l'autre, 3 fois plus. Toujours la violence se multiplie. Il y a une escalade, nous le savons. Ça suffit de regarder le monde. Mais déjà, donc, dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, était dans la justice, était dans l'équité et mettait une barrière à la multiplication de la violence. Mais la perfection se trouvait dans le pardon, dans l'amour à l'ennemi, etc. Et quand le professeur a corrigé ma copie, il est venu me voir en disant « Je pense que vous n'avez pas tout à fait saisi les nuances de notre langue, puisqu'amour et ennemi ne vont pas ensemble. » Évidemment, dans n'importe quelle langue, ils vont ensemble. Et je lui ai dit, « Ah bon ?» Oui, parce que l'amour, c'est un vocabulaire qu'on utilise plutôt pour son épouse, pour ses enfants, pour ses amis, pour ses parents. Je lui ai dit, « Oui, mais quand votre épouse est votre ennemi, vous êtes appelé quand même à l'aimer. » Et là, il est un peu saisi, il a saisi la chose, mais il me dit quand même, je pense qu'il y a plus de nuances encore, parce que le vocabulaire ennemi, c'est un mot qu'on utilise plutôt pour la guerre, entre deux États, deux pays, non pas pour sa femme, je suis d'accord. Mais quand vous vous plaignez de votre femme, de son comportement, quelque part, elle est votre ennemi, puisqu'elle ne fait pas ce que vous voudriez qu'elle fasse. Et vous êtes quand même appelé à l'aimer, puisqu'elle est votre femme. Et là, je vois dans ses yeux, dans l'expression de son visage, qu'il réalise quelque chose. Il me regarde et il me dit « J'avais entendu parler de vous, les Occidentaux, les chrétiens, parce que parfois il y a beaucoup de confusion. Et j'avais entendu parler de vous, mais je ne savais pas que c'était autant. » D'accord, d'accord, vous pouvez y aller. Mais je pense que ce jour-là, et ensuite, il passe à côté de moi, il y avait un collègue de mission, quelqu'un qui faisait la mission aussi, un frère de la communauté, et un jeune de 25 ans, qui était aussi en mission, et qui avait fait une copie sur le même sujet. Et donc, quand je pars de la salle de classe, j'entends les profs qui s'écrient « Quoi ? Tendre l'autre joue ?» Donc ce jour-là, il a eu affaire à deux chrétiens, sans le savoir, quelque part, mais je pense qu'il est rentré à la maison vraiment déconcerté, bouleversé, ça a fait quelque chose, et il a réalisé des choses, il ne s'est pas converti pour autant, j'imagine, je ne l'ai plus jamais rencontré, mais il a compris ce que veut dire que d'être chrétien, c'est-à-dire pardon jusqu'à l'amour de l'ennemi. Bonne journée à tous.
See you.